Bonjour et bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, on va revenir sur l'histoire de la baguette. Ensuite, on découvre une appli inventée par deux pompiers, une appli qui peut sauver des vies. Et puis, on va terminer avec l'art qui s'invite dans les rues de Narbonne. Mais avant tout cela, on s'intéresse à l'actu de ce mercredi 15 mai. Bonjour Denis Farouf.
Bonjour Frédéric Le Ternier. Bonjour à tous.
La hausse de l'électricité de 5,9% annoncée pour cet été ne passe pas pour les associations de consommateurs.
Deux d'entre elles la jugent illégale et demandent son annulation devant le Conseil d'État.
La diversité est une bonne chose pour 81% des Français, mais...
Il y a un mais, Nicolas Balu.
Mais les Français fréquentent moins les gens différents d'eux-mêmes.
Nous allons nous mettre à table sans gluten ce midi, en cette journée mondiale de la maladie cœliaque.
À l'heure où près d'un Français sur cinq dit manger sans gluten.
Le 15 mai 1889, il y a 130 ans aujourd'hui, la Tour Eiffel ouvrait ses portes au public.
Elle avait été construite en 2 ans, 2 mois et 5 jours, avec des opposants, des plaintes et des pétitions à l'époque.
On parlera aussi ce midi d'Antoine Griezmann et du Tour de France. Bienvenue à tous dans Une Heure en France.
Une Heure en France, Frédéric Le Ternier, Denis Farou sur France Bleu.
Il y a un mois aujourd'hui, on découvrait avec stupeur et tristesse l'embrasement de Notre-Dame de Paris avec cette charpente unique, vieille de 800 ans, partir en fumée.
Et cette flèche emblématique qui s'effondre sous les yeux du monde entier. Un mois après, Benjamin Hilly, vous avez constaté que Notre-Dame n'a pas encore pansé ses plaies.
Elle est là, la cathédrale.
On est sur le quai de la rive gauche.
Notre-Dame toujours barricadée, avec ses grandes palissades blanches. On voit encore les ouvriers qui sont en train de travailler.
Ces palissades qui n'étaient pas là la semaine dernière. Hein.
Donc Olivier de Chalut, 38 ans.
Je suis toujours guide à la cathédrale. 11 ans de visite guidée. Là, je vois la façade. La façade, elle a pas bougé. Donc très, très content de la voir. C'est une amie, en fait. Hein. Donc j'ai l'impression de voir une amie un peu de loin. Il faut considérer que ce 15 avril, probablement avec la consécration du cœur en 1182, c'est la deuxième date la plus marquante de toute l'histoire de cet édifice. Moi, aujourd'hui, mes préoccupations, elles sont plutôt à qu'est-ce qui reste encore à préserver de cet édifice. Parce qu'on se rend compte, même depuis un mois, qu'il y a des choses qu'on ignorait de l'histoire de cette cathédrale et qu'il va falloir préserver. Par exemple, je pense aux peintures médiévales, probablement médiévales, qu'on a trouvé grâce à des photos haute définition sur les voûtes, des peintures dont on ignorait l'existence. Ces peintures-là risquent de cloquer, tomber au sol. Il faut qu'on les protège.
Les touristes sont toujours là. La reprise des visites, c'est pour quand ?
Pas encore de date à annoncer, non.
Et qu'est-ce que vous faites en attendant ?
Je la regarde et elle est toujours belle, bien sûr.
Vous rêvez du jour où vous pourrez passer ces barrières et aller sur le parvis ?
Ma vie, elle est là-bas. Et même brûlée, je l'aime.
Amoureux de Notre-Dame ?
Ah bah complètement.
Benjamin Hilly à Notre-Dame de Paris.
L'archevêque de Paris souhaite célébrer au plus vite une messe au sein de la cathédrale, quitte à mettre un casque de chantier, mais il s'agirait d'une messe sans fidèles pour des raisons de sécurité, retransmise à la télé.
Les associations de consommateurs CLCV et Que Choisir vont demander l'annulation de la hausse de l'électricité devant le Conseil d'État.
Elles jugent cette hausse de 5,9% cet été illégale, infondée et injuste. François Carlier est le délégué général de l'association de consommateurs CLCV.
L'autorité de la concurrence, qui fait autorité en la matière, a produit 2 avis en janvier et en mars pour dire que cette commission de régulation de l'énergie s'était trompée, faisait n'importe quoi, et elle recommandait au gouvernement de ne pas suivre ce que disait la commission de régulation de l'énergie. Le gouvernement a fait la sourde oreille tant à l'autorité de la concurrence qu'aux associations de consommateurs. Eh bien, nous allons aller devant le juge et nous espérons bien faire annuler cette hausse. Alors, elle est illégale parce qu'en réalité, dans le plus 6%, hein, 5,9 c'est 6%, il y a la moitié, c'est l'augmentation des coûts d'EDF. L'autre moitié, c'est simplement que les opérateurs alternatifs, ils ont des problèmes d'accès au nucléaire parce qu'ils deviennent trop nombreux, leurs coûts augmentent. Et comme il faut absolument que la concurrence survive, la Commission de régulation de l'énergie décide d'augmenter le tarif réglementé d'EDF.
François Carlier, le délégué général de l'association de consommateurs CLCV.
La garde à vue de l'anesthésiste de Besançon, mis en examen en 2017 pour 7 empoisonnements et interrogé sur une 50aine d'autres incidents médicaux suspects, a été prolongée de 24 heures supplémentaires.
Il est soupçonné d'avoir injecté des doses létales de potassium et d'anesthésique aux patients, provoquant un arrêt cardiaque. Il était ensuite appelé pour réanimer les victimes. L'avocat de plusieurs des familles de victimes présumées, Frédéric Bernat, estime qu'on pourrait être en présence d'un cas hors norme.
Si jamais nous pouvions envisager qu'il lui soit imputé 50 cas en plus des 7, ce qui nous ferait quasiment une soixantaine de cas, il est certain que dans l'histoire judiciaire française, il serait dans le top 5 des tueurs en série. C'est-à-dire que, si mes souvenirs sont bons, à part Gilles de Rais au 15e siècle et le docteur Petiot, et encore le docteur Petiot, on lui en impute entre 25 et 60, on serait véritablement devant un cas totalement hors norme, et en termes d'empoisonnement, ce serait quasiment du jamais vu en France, en tout cas. Puisqu'il y a un cas à peu près similaire en Allemagne.
L'avocat des victimes présumées de l'anesthésiste de Besançon.
On est entré dans le vif du sujet au procès des époux Balkany au tribunal de Paris, jugé pour avoir dissimulé 13 millions d'euros au fisc.
L'enquête avait disséqué le train de vie du couple, incompatible selon le fixe avec leurs revenus déclarés. On avait retrouvé au pressing des billets de 500 euros dans un costume du maire. Et ces mêmes coupures servaient à payer des courses au supermarché.
À la sortie de l'audience hier, Patrick Balkany s'est exprimé pour la première fois.
Et notamment sur les soupçons de corruption qui pèsent à son encontre autour de la villa de Marrakech, dont il assure ne pas être le propriétaire.
Ça fait 36 ans. Que je suis maire. Je n'ai jamais été corrompu par personne. Et c'est pas demain la veille. Je n'ai jamais eu d'affaire de corruption. Ce n'est pas ça. J'ai commencé la politique avec ma femme. Nous étions riches. On l'a fini pauvre.
Mais vous allez 5 fois par an dans une villa qui ne vous appartient pas ?
Parce que vous êtes propriétaire ou locataire de votre appartement ? Si vous êtes locataire, vous y allez tous les jours. Et quand vous louez une maison, vous y allez quand vous la louez. Vous savez, j'ai toute ma vie loué des maisons. On avait loué des maisons à l'année à Saint-Tropez pendant 6 ans et j'étais locataire. Mais quand j'invite quelqu'un, je lui dis venez chez moi, je dis venez pas chez mon propriétaire.
Patrick Balkany entre 2 audiences au tribunal correctionnel de Paris.
C'est un chiffre qui fait du bien. 8 Français sur 10 estiment que la diversité est une bonne chose.
C'est plus que l'année dernière dans ce baromètre de la fraternité et c'est réconfortant, même si, comme toujours, il y a les paroles et les actes, Nicolas Ballu.
Bah oui, parce que ça n'est pas parce qu'on se côtoie qu'on se fréquente. Alors que disent les sondés ? La diversité est l'un des éléments qui caractérise la France, ça c'est admis. Et d'ailleurs quand on dit diversité, les Français comprennent le plus souvent diversité d'origine ethnique ou culturelle, moins souvent la diversité religieuse, le niveau d'éducation ou les convictions politiques par exemple. Si les Français sont plus nombreux cette année à considérer que la diversité est une bonne chose, c'est probablement parce que malgré tout le climat se détend un peu.
C'est un peu trompeur, non ?
Alors oui, parce que les Français ne fréquentent que ponctuellement des gens différents d'eux-mêmes, en termes de milieu social ou d'âge par exemple. Ça n'est pas nouveau, mais surtout, la tendance est plus inquiétante. Nous interagissons de moins en moins avec les autres, surtout s'ils ont un autre statut professionnel, s'ils sont dans un autre type d'habitat, c'est-à-dire rural ou urbain, et surtout si l'autre a des opinions politiques différentes. Nous sommes un peu plus communautaires, même si le sondage ne le dit pas comme ça.
Ça veut dire qu'on s'enferme un petit peu plus.
Oui, parce qu'on n'a pas l'occasion ou parce que nous n'en avons pas le temps le plus souvent. En tout cas, c'est ce que disent les sondés. Ils affirment également qu'ils sont prêts à agir davantage avec des personnes différentes d'eux. Il existe donc une demande. Et ça aussi, c'est quand même un signe positif.
La bonne nouvelle et les bémols concernant ce baromètre de la fraternité. Merci Nicolas Ballu.
C'est la journée mondiale de la maladie cœliaque, c'est la maladie des allergiques au gluten.
Ceux qui ne peuvent pas manger de blé, par exemple, mais il y a du gluten aussi dans le seigle, l'orge, l'épeautre ou l'avoine, d'où la difficulté des personnes concernées de trouver des aliments et des plats qui leur conviennent. Mais ça va mieux quand même dans les supermarchés et même dans les restaurants, Louis de Bergevin.
Une petite salle dans un bâtiment historique du centre-ville de Nantes, Totum, a ouvert il y a 2 ans. C'est un restaurant de qualité avec des produits locaux et sans gluten. Pascal Roy est à sa tête.
Quand on a ouvert Totum Cantine Bio, à ce moment-là, ça a ouvert la porte effectivement à beaucoup de nouveaux clients qui ne vont jamais au restaurant.
Et qui le remercient régulièrement.
Au moins une fois par semaine, des gens nous disent « au moins on peut venir chez vous parce qu'on n'a pas de questions à se poser ». On leur dit qu'effectivement, le gluten chez nous, il n'y a pas de problème.
Oui, parce que pour les allergiques ou intolérants au gluten comme Salomé, c'est pas toujours facile d'aller manger au restaurant ou chez des amis.
Si, je sors, mais après c'est pareil. Déjà de base, on ne peut pas manger grand-chose dans un resto, donc ça se terminait tout le temps ça se termine toujours à l'heure actuelle par une assiette de légumes, quoi. Une assiette de légumes ou une salade avec un filet d'huile d'olive quand ils sont sympas. Mais c'est vrai que là maintenant, on trouve quand même des farines, on trouve des gâteaux, on trouve du pain sans gluten aussi. Enfin, il y a quelques années, le pain sans gluten, on n'en trouvait pas comme ça dans les magasins.
Mais cet effet de mode du sans gluten, elle le reconnaît. ça lui a bien servi.
Même si ça m'insupporte d'entendre des gens qui pourraient en manger, qui n'en mangent pas, et je ne vois pas pourquoi, ça n'a vraiment aucun intérêt. À côté de ça, bon, bah, ils m'ont aidé aussi, ils me facilitent la vie au quotidien, quoi, donc c'est un peu ambivalent.
Et le marché, lui, continue de grandir. Aujourd'hui, près d'un Français sur cinq dit manger régulièrement sans gluten.
Le sans gluten, Louis de Bergevin à France Bleu, Loire-Océan.
En plein mois de mai, l'alerte météo France à la neige a surpris en Haute-Corse.
L'alerte est maintenant levée, mais il a neigé tôt ce matin. Les équipements sont obligatoires pour franchir le col de Visanova à 1163 mètres d'altitude entre Corté et Ajaccio. Elle disait comment, elle faisait comment la chanson déjà à l'époque ?
Quelle chanson ?
La chanson du mois de mai.
Ah, joli mois de mai, c'est
ouais,
ça ?
De Bourville,
ouais, c'est ça. C'est parti pour ça. 13h10 sur France Bleu, la suite du Nord en France, c'est l'anniversaire de la Tour Eiffel qui fête ses 130 ans avec une ouverture au public le 15 mai 1889. Pour mémoire, elle mesure 324 mètres et pèse 7300 tonnes. Le temps de passer par Madrid où Antoine Griezmann a décidé de changer d'air. Il va quitter l'Atlético Madrid à la fin de la saison.
Il jouait à l'Atlético depuis 5 ans avec 256 matchs joués, 133 buts au compteur, une victoire en Ligue Europa et une finale de la Ligue des Champions. C'est dans un message en espagnol sur les réseaux sociaux qu'il s'est adressé aux supporters.
Hola a todos.
Salut à tous. Après avoir parlé avec l'entraîneur et les dirigeants, je voulais vous parler à vous, supporters, qui m'avez toujours apporté votre tendresse. J'ai pris la décision de partir. J'ai envie de voir autre chose, de relever d'autres défis. J'ai eu du mal à me décider, mais c'est ce dont j'ai besoin au fond de moi. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous m'avez donné pendant ces 5 ans. J'ai gagné ici mes premiers trophées importants en club. J'ai vécu des moments incroyables dont je me souviendrai toujours. Je vous porte dans mon cœur et ce n'est pas simple pour un joueur. J'ai toujours essayé d'être un gars sympa. De tout cœur, merci beaucoup et à bientôt.
Mais il va aller où, Griezmann, Denis ?
On ne sait pas.
Pas
peut-être Barcelone, peut-être Madrid, peut-être ailleurs, on verra. Pour l'instant, c'est hasta luego, Griezmann.
Hasta luego, à bientôt si Dieu le veut. Hasta luego, on se reverra sous.
Ah oui, on va se revoir, c'est sûr. Avant les 130 ans de la Tour Eiffel, les 100 ans du maillot jaune du Tour de France. On a d'ailleurs visité, souvenez-vous, il y a quelques temps, le musée du maillot jaune qui a ouvert ses portes à Nice.
Et même que c'était très bien.
Ouais.
La nouveauté du jour, ce sont ces maillots jaunes différents chaque jour au mois de juillet prochain. Sur ces maillots, des dessins, des lieux ou des visages de coureurs qui ont marqué l'histoire du Tour, comme les Hinault, Anquetil ou Merckx. Le patron du Tour, Christian Prudhomme, donne quelques exemples.
Nous partons de Bruxelles, le premier maillot jaune aura l'Atomium, le dernier aura l'Arc de Triomphe sur les Champs-Élysées, et puis certains auront le visage de Bernard Hinault, le visage d'Eddy Merckx, le visage de Jacques Anquetil ou de Miguel Indurain par exemple. Donc ce sera vraiment quelque chose de tout à fait particulier pour les 100 ans du maillot jaune, et des maillots jaunes dont on pourra dire dans quelques années, ah ben, ce maillot jaune-là c'était sur telle étape parce qu'il y a, par exemple, Eugène Christophe, et donc Eugène Christophe c'est le premier maillot jaune de l'histoire du Tour de France, 19 juillet 1919, 19 juillet 2019, à Pau, ce sera Eugène Christophe sur le maillot jaune.
Voilà, mais c'est pas lui qui avait gagné le Tour de France cette année. Christian Prudhomme et les maillots jaunes 2019.
On a commencé avec Notre-Dame de Paris qui pense ses plaies évidemment, et on termine avec la Tour Eiffel qui elle fête ses 130 ans.
Les 130 ans de l'ouverture au public de la Tour Eiffel avec au programme un atelier d'écriture pour les enfants, un grand concert gratuit avec Jeanne Haddad et enfin un show lumineux imaginé par le scénographe Bruno Cellier. Mathieu Culeron.
Au cours de sa vie, la Tour Eiffel aura vu défiler des orchestres philharmoniques, 3 concerts de Johnny Hallyday et même un concert de punk à son sommet. Et cette année, pour ses 130 bougies, elle convoque 1350 enfants pour un atelier d'écriture géant, un projet initié par Christophe Girard, adjoint à la culture à la mairie de Paris, pour l'anniversaire de la vieille dame.
Alors la vieille dame, faut vous souvenir qu'elle a fait scandale. Et pour les enfants, je pense que c'est bien de savoir que la Tour Eiffel a fait l'objet de lettres, même de lettres anonymes, de gens qui dénonçaient. Il y avait des corbeaux de la Tour Eiffel. D'avoir des enfants qui vont envoyer une carte postale, une lettre, ou à qui ils veulent en racontant leur journée à la Tour Eiffel, je trouve que c'est une belle manière pour eux d'apprendre le patrimoine. Je pense que c'est une belle manière de célébrer la Tour Eiffel.
L'autre temps fort de cette célébration, c'est le concert de Jeanne Haddad juste sous la Tour Eiffel, la double lauréate des Victoires de la Musique qui succède ainsi à Johnny Hallyday en toute simplicité.
Du coup, je me suis dit, bon, j'ai un peu l'impression qu'ils ont fait une erreur de casting, mais je suis extrêmement contente de pouvoir faire ça. Ça fait partie des trucs complètement improbables qu'on peut faire dans la vie en faisant de la musique. Voilà, c'est vraiment dingue. Décidément, tout ça est formidable.
L'anniversaire de la Tour Eiffel qui se terminera après le concert par un son et lumière à 22h, totalement inédit.
You feel my anger radiate.
idea disseminate. Still feels empty around me, but now, now I can bear the vacancy. I am in danger to be the danger.
Jeanne Haddad, quelle belle voix. Récompensée d'ailleurs aux victoires de la musique, elle va chanter sous la tour Eiffel. Et des sons et lumières sont donc annoncés pendant 3 jours à 22h, 23h et minuit.
Oui, mais à minuit, ce sera sans musique. Car il y a des riverains près de la tour Eiffel qui veulent dormir.
C'est gay. Après Paris, la tour Eiffel, on va aller à Narbonne où l'on découvre une fresque extraordinaire. Nous allons aussi échanger avec des pompiers.
Et on va remonter à l'origine de la baguette de pain en cette semaine du pain après la météo du jour.
FranceBleu.fr.
À écouter, à réécouter, à voir et à revoir, à lire et à relire. Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.